Cette semaine à l'émission, on reçoit le témoignage de Jean-François Morin. Et Patrick Ducharme se demande, avec le sociologue Hartmut Rosa, pourquoi on est si fatigué. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et culture. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cet épisode où il sera question d'épuisement, de fatigue, de longs soupirs. Et j'ai le bonheur d'être accompagné de Jessie Blouin. Bonjour Jessie.
Allô Antoine.
Et Patrick Ducharme. Bonjour Patrick.
Bonjour Antoine.
Première apparition, on n'est pas du monde. Oui. Très heureux de t'accueillir.
Merci de l'invitation.
Alors Patrick, pour les pauvres qui ne te connaissent pas encore, tu es enseignant en sociologie au collégial.
Oui, exact.
Depuis une quinzaine d'années à peu près.
Environ, oui.
Oui. Et tu as collaboré avec nous à quelques reprises, entre autres pour des présentations de portraits de grands penseurs. Tu avais fait, entre autres...
Marshall McLuhan, oui. Qui est un homme de lettres, professeur de littérature qui s'est intéressé aux médias, mm-hmm. notamment. Donc, pour comprendre le rapport au numérique Internet, aujourd'hui, Marshall McLuhan est très important.
Il est encore enseigné dans les facultés de com.
Ah, absolument. Il est très pertinent ne serait-ce que réfléchir à l'intelligence artificielle.
C'est vrai.
L'omniprésence du téléphone cellulaire, là, il est très, très utile. Puis c'était quelqu'un qui s'était converti au catholicisme assez tard dans sa vie. Mm. Il provenait d'une famille protestante. C'est ce que j'avais...
Il va falloir qu'on fasse une émission spéciale sur McLuhan assez bientôt, je pense.
C'est un homme fascinant. Pour vrai, c'est un personnage. Là.
Et là, aujourd'hui, tu viens de nous parler d'un autre auteur, Hartmut Rosa. En fait, un sociologue allemand, un contemporain qui est toujours vivant.
Oui, absolument. On le connaît à l'échelle internationale, je dirais, depuis peut-être une dizaine d'années qu'il commence à se faire connaître. Il est très pertinent. Il soulève des questions très universelle, très importante, avec un angle très original pour la sociologie.
C'est de la sociologie qui est, somme toute, aussi assez accessible pour des gens qui ne seraient pas intéressés a priori par la sociologie, je pense.
Oui, ben c'est ça. Il y a un vocabulaire relativement simple. Dans certains ouvrages là, qui sont très accessibles, il y a un vocabulaire assez simple. Il s'éloigne du jargon habituel. Puis, il a une pensée qui se veut très constructive, aussi assez... optimiste aussi, d'une certaine manière. Donc, ça se distingue de d'autres courants de la sociologie critique, à tout le moins. Puis oui, je trouve qu'il est très accessible et très... il évoque beaucoup de choses. Il y a des images très fortes dans sa sociologie.
C'est en tout cas, pour avoir fréquenté un peu son œuvre, c'est vraiment rafraîchissant. Tout ça va être en deuxième partie d'émission, un peu plus tard. Très heureux de t'avoir avec nous, Patrick.
Merci.
Jessie, tu nous parles de quoi, toi, plus tard dans l'émission?
Je parle de détente, de divertissement, de réduire la confusion entre les deux, identifier les réels besoins.
Parce qu'on est tous fatigués. Hein? Connaissez-vous des gens qui sont pas fatigués, vous autres? Mais ça, c'est régulièrement, non, c'est ça, silence dans la salle. on est dans des soupers d'amis où on rencontre des gens autour de nous. Comment ça va? Ah, oh, ça va vite. Ou, fatigué. Mais ça, c'est assez fréquent comme réponse à cette question-là, non? Est-ce que j'hallucine? Est-ce que je fréquente des gens particulièrement fatigués?
Non, mais le « ça va vite », je l'ai remarqué aussi de plus en plus. Et même moi, ça m'arrive de l'utiliser. Donc oui, « ça va vite » est rendu la réponse classique à « ça va bien ».
Alors, on va prendre le temps de souffler un peu puis aborder la question de long en large. En tout cas, on va en aborder certains aspects aujourd'hui. Et on a la chance aujourd'hui d'accueillir un invité... Qui a souvent dit « Ouf, ça va vite, j'en doute pas une seconde ». Il est, après des années, à s'investir à fond dans une carrière qu'il mène pourtant tout droit dans le mur. Il remet toute sa vie en question et s'est réorienté complètement. On accueille Jean-François Morin. Jean-François Morin, bonjour.
Salut Antoine.
Bienvenue, on n'est pas du monde.
Bien gentil, merci.
Alors, après des études en philosophie, tu bifurques vers le droit pour mener une brillante carrière, je pense qu'on peut le dire, là, dans le monde de l'industrie des produits financiers, c'est bien ça? En 2015, tu frappes un mur. Qu'est-ce qui s'est passé, Jean-François?
Oh là là, ça a été le mur royalement frappé. Carrière brillante, je ne sais pas, là, mais disons que ça s'est terminé, on dirait, d'un coup sec. Je dois dire que ma trajectoire a été plutôt extrême dès le point de départ. En fait, moi, ce que je raconte souvent, c'est que j'aurais pas dû être là. J'aurais pas dû être là parce que je suis arrivé dans une famille où mes parents étaient déjà âgés, la famille était faite, puis j'ai comme mes résultats d'un soir de party. Ce qui a fait que...
OK, on est à la genèse de...
On est à la genèse de l'œuvre.
On était dans le mur qui t'a frappé, là, mais là, on...
Ouais, on part du swing qui a conduit dans le mur. Alors...
Le premier élan, là, ouais.
Ouais, là, ben, en fait, c'est que c'est la course à s'installer, à être dans les normes, à performer, à faire les choses convenablement, à répondre aux exigences de donner les résultats.
Moi, j'ai exigence que tu avais dès... C'est ça, oui. Si je comprends bien, dès...
Dès le point de départ.
Dès le berceau, presque.
Oui, parce que mes parents étaient du monde occupé, puis il fallait que les choses soient en place, puis que ça se produise. Ah. Alors, moi, j'ai grandi dans cet environnement-là où la performance est un élément fondamental dès le jeune âge. Mm-hmm.
Et tu te conformais à ça?
Oui, sans difficulté, parce que la rétroaction était positive. Ah. Donc, en se conformant, tu recevais le feedback positif. Uh-huh. Alors, j'ai duré là-dedans, puis l'éducation ayant suivi cette espèce d'habitude d'être destiné à faire partie des gens qui, éventuellement, allaient prendre des responsabilités, uh-huh. fait en sorte
faire
que...
Faire partie d'une certaine élite, là, ou disons, avec des postes de responsabilité.
Oui.
Tu te sentais que tu étais prédestiné à ça?
Bien, ça nous avait été annoncé déjà dès l'entrée au secondaire. Hmm. Écoutez, vous avez été sélectionné pour ça. Là, parce que
dans un collège privé.
Oui, c'est ça.
Ouais.
À une époque où il y avait encore beaucoup de sélection par rapport à ce genre de capacité ou de compétences-là.
Donc, tout était en place, Jean-François, pour que tu deviennes performant.
Oui, bien, c'est ça. J'ai eu du plaisir dans la vie au début des études universitaires parce que je savais que j'allais finir par être un avocat. C'était comme dans le plan de match, mais je me trouvais trop jeune, donc j'ai commencé par la philo, puis c'est ce qui m'a vraiment beaucoup plu. Hein. Puis à un moment donné, au programme de maîtrise, mauvais résultat, change de faculté, rentre en droit, j'aurais jamais dû prendre cette décision-là, j'étais pas à ma place. Mais j'ai persisté dans une carrière qui m'a finalement rendu malade. Donc, dans la quarantaine, gestionnaire, avec déjà des acquis, des choses difficiles à remettre en place, un élan absolument foudroyant, bien, à un moment donné, t'es comme dans l'hyperactivité, là. Ah, alors, ouais. De livrer des résultats. Puis un jour, bien, la capacité de livrer devient moins bonne pour toutes sortes de raisons. Dors mal, mange mal, fais pas de sport. Tu deviens moins capable de livrer, puis là, la confusion s'installe, puis après la confusion, une certaine frustration, puis après la frustration, là, le corps commence à lâcher en morceaux. Et moi, j'ai été d'une certaine façon chanceux parce que la crise cardiaque est arrivée puis m'a arrêté. Huh. J'ai pu stopper avant de tomber vraiment dans la phase de désespoir qui est caractérisante des gens qui font des burn-out dont ils ne ressortent pas.
Qui arrive, ça arrive, tout le monde connaît quelqu'un à qui c'est arrivé, là. En tout cas, je vous vois, puis, surtout dans ces âges-là, toi, tu étais dans la jeune cinquantaine à peu près.
Oui,
quand
52.
Bon, c'est assez classique comme pattern, excuse-moi, je n'ai rien enlevé à ton parcours, mais tout était en place pour que ça survienne. Je t'entendais parler, Jean-François, puis je voyais Patrick opiner, spécialement quand il était question de la conformité aux attentes, tout ça. Des psychologues regarderaient ça sous l'angle d'une approche plus comportementale, là, behavioriste presque. Là. Les sociologues, ils regardent ça comment? Un parcours comme ça où il y a des attentes, des règles informelles, parce que c'est sûr, tu n'as pas signé de contrat nulle part dans ton enfance qui te prédestinait à tout ça, mais tu sentais un poids des normes. C'est quoi le regard d'un sociologue sur ce genre de phénomène?
Ça, c'est paradoxal parce qu'on se rend malade en faisant ce qu'il faut faire. J'aime bien le discours d'un médecin et auteur qui s'appelle Gabor Maté, que vous connaissez peut-être, qui dit que dans une culture, la norme n'est pas le comportement correct, c'est le comportement attendu. Donc, il n'y a pas de rapport à la morale dans la norme. C'est ce qu'on doit faire, tout simplement. Et c'est ça qui est confrontant lorsqu'on est soit en trouble anxieux, en dépression, en épuisement professionnel, c'est qu'on se dit, bien, pourtant, j'ai fait ce que je devais faire. Et j'ai tout ce qu'il faut, j'ai réussi, j'ai une carrière.
J'ai suivi plein de matchs, puis ça a foiré pareil.
C'est ça. Mais si on se souvient que la norme en tant que telle n'est pas souhaitable, mais elle est attendue.
Ça peut arriver qu'elle soit morale, mais
ça peut arriver,
pas
mais il faut au moins pouvoir en discuter. Oui, tout à fait.
Ah, c'est intéressant. Alors, il arrive ce mur-là de la crise cardiaque qui a été tout un... tout un signal d'alarme? En tout cas, j'imagine ça...
Ben oui et non, en fait, parce que j'y ai pas cru. Quand le médecin m'a dit en salle d'intervention, « Monsieur Morin, est-ce que c'est la première fois? » J'ai dit « La première fois quoi? » Il dit « Vous êtes en train de faire un infarctus. » Écoutez, j'ai éclaté de rire. Et puis, ben on m'a soigné et voilà. Mais alors, on est préparé à ce genre de régiment. On est préparé dès l'enfance à faire des étapes qui nous préparent pour l'étape suivante, etc.
C'est un entraînement pour un sportif, oui.
Ensuite, nos parents nous éduquent, mais ils nous divertissent. Puis après ça, on tombe aussi dans une certaine forme de conformisme qui peut tomber à l'asservissement quand on perd la capacité de retrouver des points de repère qui nous appartiennent. Ce qui a été mon cas. Donc, quand cet événement-là s'est produit, ma réaction immédiate, ça a été « Ben voyons donc, comment se fait-il que je sois rendu là? » Alors, ça m'a pris des heures de psy pour pouvoir interagir et savoir comment j'avais pu me perdre dans le cheminement de ma vie pour aboutir à un endroit qui n'était pas celui où je devais être. Parce que c'est ça la question. C'est de ne pas être capable de répondre à la préoccupation « Où suis-je? » Donc, quand tu n'as pas de point de repère, quand tu ne peux pas évaluer la manière dont tu remplis tes batteries ou la façon dont elles se vident, bien, inévitablement, tu as une tendance un peu extrême, comme moi j'en ai une, par constitution. Il est presque inévitable que tu te rendes quelque part dans un endroit où tu te la pètes royalement.
Est-ce que tu dirais que tu as fait une forme... On parle de l'épuisement aujourd'hui, de la fatigue. Tu parles de tes batteries. Là, c'est une allégorie, une analogie qui est souvent utilisée là, de nos jours, celle de la batterie. Tout le monde comprend bien comment ça marche. Est-ce que ces batteries-là étaient vidées? Est-ce que tu dirais que c'est un épuisement que tu as fait?
Oui.
Un genre de burn-out dont la crise cardiaque a été un des signaux?
Oui, tout à fait. Dans les activités qu'on a, quand elles nous correspondent, quand elles répondent à nos talents naturels, généralement, on en ressort énergisé. Il y a quelque chose qui nous stimule, qui nous motive, qui nous propulse vers l'avant. Il y a une forme d'adrénaline qui est très, très favorable pour le maintien de la vie. On a été fait comme ça.
Un bon stress.
Il y a un mauvais stress qui est celui où, à un moment donné, on franchit la limite. Puis à ce moment-là, au lieu d'avoir une accumulation, on a une déperdition. Mais comme on est dans l'hyperactivité, on ne s'en rend pas compte. Puis un jour, la batterie se retrouve entièrement vidée. Puis ça tient beaucoup au fait d'exploiter des compétences, des choses acquises au lieu de s'en tenir à nos talents naturels. Alors, on acquiert des compétences par-dessus.
Comme
là,
par exemple, dans le monde dans lequel tu étais, celui de l'industrie des produits financiers, tu avais acquis des compétences. Tu étais bon dans ce que tu faisais, j'imagine, pour être rendu là. Tu avais une équipe à ta charge que tu gérais sûrement très bien. Tu avais développé des aptitudes, mais c'était pas tes aptitudes naturelles, tes talents naturels, c'est ça que t'es...
C'était des procédés pour obtenir des résultats.
Une machine.
Des compétences, ça sert à ça. Donc, quand il s'agit de livrer quelque chose pour un employeur, pour une entreprise, soit un service, soit des produits, bien, à ce moment-là, on acquiert des moyens de le faire. Puis ces moyens-là, s'ils correspondent à qui on est, comme profil comportemental de base, là, parce que tout le monde n'est pas construit de la même façon...
Ben non.
Ça t'aide, mais sinon, ça te mine. Et bon, alors dans mon cas, c'est ce qui s'est produit. Je me suis tranquillement vidé.
Ouais.
Puis à un moment donné, crac, ça a cassé. Puis c'est ce qui se produit dans la plupart des cas de gens qui font de l'épuisement professionnel. À un moment donné, ils arrivent à un endroit où ils ne se retrouvent plus.
Comment tu réponds à cette question-là? Il y a des gens qui nous écoutent, là, qui viennent d'entendre ce que tu as dit, là. L'important, c'est de savoir où on est. Comment on fait pour répondre à cette question-là, Jean-François?
Bien, il faut d'abord prendre le temps de s'arrêter. Donc, il y a un éloignement géographique ou spatial qui est important de prendre. Quand on sent qu'on s'en va vers le mur, parce qu'à un moment donné, il y a des signaux de ça, sur le plan des émotions, sur le plan du cœur, sur le plan du corps, sur le plan de toutes sortes de capacités, bien là, à un moment donné, il faut s'arrêter. Il faut prendre une distance, puis il faut se demander où on en est dans notre gestion de l'énergie. Puis si on se rend compte que la batterie est en train de se vidé, là, il faut sérieusement se poser des questions sur par où je suis passé pour me rendre ici, avant de casser. Et ça, c'est ce que nous ne faisons pas la plupart du temps, parce que nous vivons dans une culture du divertissement, parce que nous sommes constamment à la recherche de l'avoir. J'ai, mais je veux plus, du vouloir, du valoir. Je vaux quelque chose, mais je veux valoir plus la réputation. Et puis le pouvoir, j'ai des leviers pour faire, pour transformer, pour changer la réalité. J'en veux plus. Et ces requêtes-là font en sorte que tu es constamment en train de bouger. Alors, il y a les divertissements nous permettent de réduire l'attention. Puis à un moment donné, il faut aussi choisir le positionnement qu'on a dans l'environnement dans lequel on se trouve. Donc, est-ce que je suis bien si je me conforme à ce qu'on me demande ou à ce que les valeurs ambiantes exigent de moi en termes de comportement? Il faut se poser cette question-là.
Patrick, oui.
C'est intéressant parce que en tant que professeur, je remarque que les personnes qui sont le plus susceptibles de frapper ce mur-là, d'être rattrapé par l'anxiété, l'hyperactivité et éventuellement l'épuisement, ce sont la grande majorité du temps, ce sont les étudiants et étudiantes avec les meilleurs résultats. Ceux justement qui visent le droit, la psychologie, les programmes universitaires qui ont des préalables exigeants, ce sont ces personnes-là qui s'épuisent le plus. C'est pas les personnes qui ont de la difficulté à atteindre les standards, c'est les personnes qui veulent dépasser les standards. Cette référence-là au standard, on l'observe là, très, très, très facilement.
Une pression qui est induite parfois à la maison, des fois par les pairs, des fois qu'on se l'indique soi-même en ayant des objectifs de carrière.
C'est partout, oui, c'est les parents, c'est les professeurs, mais c'est aussi le cinéma, c'est la publicité, c'est l'imaginaire collectif. On parle du droit. Tout à l'heure, Jean-François, tu disais « je n'aurais pas dû y aller », mais pourquoi on y va? C'est parce qu'il y a un prestige aussi associé à ça. Alors, j'imagine que si je travaille bien et je vaux ça, ben le droit, c'est ce que je dois atteindre. Il y a quelque chose dans l'imaginaire collectif qui...
Mais une chance qu'on a des avocats quand même. Là, en tout cas, pour certains...
Est-ce qu'il y a un avocat qui te dit de dire ça? Ou...
J'ai un appel du barreau là, qui me dit... Non, mais c'est juste qu'il y a des personnes qui sont peut-être plus faites pour ça. C'est un peu ça que j'entends dans ce que tu dis, Jean-François. Tu n'étais juste pas faite pour ça.
Moi, je n'étais pas fait pour ça.
C'est ça.
Puis j'y suis allé parce que c'est un désir de faire partie de la bonne société puis d'être dans un environnement confortable puis de reproduire ce que j'avais moi-même eu dans mon environnement. Non pas que je vienne d'une famille de juristes, mais il y en avait autour. Mais c'était une fausse piste. Si j'avais écouté mon cœur puis si j'avais choisi ce qui me plaisait, j'aurais eu un train de vie considérablement moins élevé, mais j'aurais eu beaucoup plus de plaisir, de satisfaction. Et puis, alors ça, c'est un des critères fondamentaux. Alors les gens qui sont bien parce qu'ils font des choses qui correspondent à leur profil comportemental de base et qui ensuite prennent le temps de respirer, de s'occuper de leur corps, de bien manger, de bien dormir, c'est pas des candidats au burn-out, là. C'est pas des candidats à l'épuisement professionnel.
Mm-hmm. Qu'est-ce qui s'est passé à partir du moment où t'as remonté la pente, là, parce qu'il y a eu une réorientation de carrière, nécessairement. Là.
Oui, bien en fait, je ne l'ai pas remonté parce qu'après le retour au travail, il a fallu s'occuper des sondages d'employés catastrophiques. Alors, je me suis versé à fond de train dans ce qui était ma responsabilité. Puis, j'ai fini de vider ce qui restait
bravo.
Dans les batteries. Puis, c'est à ce moment-là que j'ai été... je dirais, forcé à prendre un autre choix de carrière. Et c'est là que j'ai pris conscience que j'étais dans le fond, dans un épuisement professionnel.
Ça a été le fond du baril, ça?
Il s'est écoulé un an entre la crise cardiaque puis le fait que je prenne conscience que j'étais dans un épuisement professionnel. Pour dire à quel point le système te maintient.
Ouais.
Alors, il n'y a pas eu aucune récupération pendant cette période-là. Il y a eu plutôt la continuation vers le fond. Alors, forcément, je me suis retrouvé, mais complètement vidé.
Ouais.
Complètement. Et puis... j'ai commencé à ce moment-là à prendre du temps pour moi, puis à faire le vide, vraiment. Et puis, je pensais que j'allais m'améliorer, mais pas du tout. Ne prenant pas les bons leviers pour rétablir, je restais au plancher. Jusqu'à un soir, alors imagine le mois de novembre, pluvieux, tu commences à être difficile la fin de l'année.
C'est triste pour tout le monde. Là. Ouais.
C'est triste pour tout le monde. Alors un soir où j'étais tout seul dans la maison, j'ai hurlé.
Au ciel?
Au ciel, j'abandonne, je lâche, j'abandonne, j'en peux plus, je lâche, prends-moi. Puis à ce moment-là, j'ai entendu une voix qui m'a invité à emprunter des sentiers qui allaient être ouverts pour moi, puis que ça allait me donner la vie la plus enrichissante que j'aurais même pas pu imaginer pour moi-même. Puis à partir de cet instant-là, j'ai consenti, j'ai dit oui, puis là, tout a relâché. Et ça, ça a été le point tournant. Donc, dans mon cas, c'est vraiment une circonstance qu'on peut qualifier de toutes sortes de façons, mais qui est celle-là, là.
Que certains qualifieraient d'une sorte de grâce ou d'une manifestation divine qui s'est présentée à toi, qui
hein, c'était la mort qui s'en venait ou la résurrection, un des deux. Là. C'est ce que je disais à ma famille. J'en peux plus, c'est un ou l'autre. Alors ça a été le coup de pied dans le fond de la piscine qui m'a permis de remonter. Puis à partir de ce moment-là, j'ai tout relâché. Puis l'analogie que je prends, c'est comme le fil d'acier qui tient un filet de tennis. Là. Il est sur un cliquet. Hein?
Ouais.
Ben, tu sais, de forcer le cliquet pour que ça déclique, puis qu'à ce moment-là, ça commence à reculer de l'autre bord.
Uh-huh.
Ça, c'est l'expérience limite de se rendre jusqu'au bout du bout. Là. Puis dans mon cas, ça a été ça. À partir de ce moment-là, le fil d'acier s'est mis à relâcher, mais ça a été long. Puis ça m'a pris 5 ans à me rétablir. Ça m'a pris 5 ans... d'activité physique, de dormir comme il faut, de travailler à temps hyper partiel.
Mm-hmm.
Puis c'est à ce compte-là que j'étais capable de remonter. Parce que statistiquement, les gens qui font des burn-out, il y en a 20 % qui s'en sortent jamais, qui vont toujours rester sans que leur énergie revienne. Il y en a un 60 % qui oscille entre « je me rétablis, j'ai plus d'énergie, je descends, je remonte ».
C'est cyclique,
ils sont jamais vraiment capables de se stabiliser.
Ouais.
Puis tu as un 20 % qui ressort à l'autre bout. Moi, j'estime que je fais partie de ce groupe-là, mais a priori, j'étais plutôt parti pour être celui qui est resté dans le fond. Alors, ça prend un soin de soi-même extraordinaire pour pouvoir sortir d'une mauvaise situation comme celle-là.
On comprend que la prière a joué un rôle déterminant. Tu parlais aussi, Jean-François, de tes proches, ta famille,
oui.
À qui tu as dit c'est la mort ou la résurrection, il n'y a pas d'entre-deux possible. Ça a été quoi leur rôle à tes proches dans ce parcours-là?
Rien de spécial. Ils ont continué leur vie quotidienne. Ils ont eu beaucoup de gentillesse et d'attention à mon égard, mais je n'avais pas besoin de soins constants. J'étais capable de m'organiser moi-même. Mais ça prend le soutien des proches dans le sens où la capacité de produire n'est plus là.
Ouais.
Donc, ça prend des sources de revenus, je dirais, assurées d'autre part pour être capable de... Mais heureusement, les enfants intégrants étaient déjà partis à ce moment-là. Mais c'est quand même un réajustement.
Ça aurait été une autre paire de manches si tu avais encore eu les enfants à charge, par exemple?
En fait, quand les enfants étaient encore dans la maison, moi, je me maintenais dans une carrière qui était celle où normalement, j'aurais pas dû être. Là.
Uh-huh.
Parce que les signaux avant-coureurs, je les avais déjà, mais je les voyais pas parce que je voulais pas les voir.
Ouais. Mmh.
Mais c'est à ce moment-là que j'aurais dû me rendre compte et que j'aurais dû faire un changement de cap.
Mais ça impliquait tellement par rapport justement à tes responsabilités familiales que c'est mieux de rester dans le déni. Là,
c'est fascinant parce que c'est une question intéressante parce que lorsque quelqu'un est en épuisement professionnel, il y a un environnement autour. Et même si les gens autour veulent aider, des fois, ben, j'ai pas le temps. Parce que moi, je travaille. Donc, je peux pas m'arrêter pour aider quelqu'un qui peut plus travailler. les enfants doivent aller à l'école. L'épouse doit travailler aussi, ramener de l'argent à la maison. Je voudrais bien t'aider, mais des fois, ça peut être ça. C'est est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai l'énergie d'aider quelqu'un qui n'a plus d'énergie? Il y a cet enjeu-là aussi. Ça peut être difficile, peut-être, pour les gens autour aussi, j'imagine.
Oui, puis il n'y a pas question de pointer.
Non, absolument. C'est que on est à court de solution.
Ça prend beaucoup d'amour pour que les gens respectent le fait qu'une personne est en transition vers quelque part qui n'est pas visible.
Et de la patience.
Et de la patience.
De l'espérance, oui. Même.
Alors, tu sais, parce que l'espace de création qui te permet de te régénérer, c'est un espace dont les limites, c'est pas défini. Là.
C'est écrit nulle part que ça te prendrait 2 ans ou 5 ans ou 10 ans à te remettre. Là.
Non. Alors, ça prend des personnes proches qui sont capables de supporter cette ambivalence.
Ouais.
Parce que quel bord tu vas prendre? Qu'est-ce que tu vas choisir? Qui vas-tu être que je ne peux pas deviner à l'heure actuelle? Comment tu vas finir? Comment tu vas ressortir? Ça, c'est une aventure. C'est un indéfini. Puis faut que l'environnement proche soit capable de marcher avec la personne qui vit cette transition-là, qu'elle-même ne voit pas.
De tolérer ou de vivre avec cette forme d'incertitude-là dont on connaît le début, mais on ne sait pas l'issue encore. Jean-François, tu es devenu toi-même coach, tu as accompagné plein de gens, tu es même membre d'Expand Canada, là, qui est une organisation certifiée. Il y a toutes sortes de coachs qui sont, j'oserais dire, même presque des charlatans. Ou mais il y en a des plus sérieux et t'en fais partie, là, j'en sais quelque chose. Comment cette expérience-là t'a aidé à vivre ce tournant-là par la suite?
Ben, dès le point de départ, quand je suis devenu malade, j'ai été chanceux d'être proche de cette organisation-là, à laquelle j'ai proposé, parce que j'avais les conditions pour le faire, de démarrer l'entreprise au Canada. Ces 5 années de transition ont été des années de travail graduel à temps extrêmement partiel parce que c'est une entreprise naissante. Mm-hmm. Alors, les processus de transition de carrière que j'ai vécu m'ont été enseignés. C'est une particularité de ce groupe-là qui est européen, de faire ces transitions de carrière-là, d'accompagner les gens. Alors, il y a des processus pour ça. Moi, je les ai suivis, je les ai appliqués. Et ça m'a permis de retourner voir, en fait, je me suis posé la question, quelle vie j'aurais dû avoir si je n'ai pas eu celle que j'aurais dû avoir, mm-hmm. là, tu sais, celle que j'ai eue. Et puis, alors, il y a une manière de se réconcilier avec son passé, de retourner voir en arrière, mais qu'est-ce que j'ai pu mettre dans mon sac pendant toutes les années où j'ai grandi, qui sont devenues les croyances, les valeurs, les points d'orientation, les points de repère qui ont fait en sorte que je suis parti sur cette trajectoire-là. Quels sont les points de repère, les croyances, les valeurs qui auraient pu faire en... Où sont les voies de divergence, mm-hmm. où j'ai pris des mauvais embranchements, quelles sont les pistes que j'aurais dû explorer, que je peux maintenant... Il faut retourner faire cette analyse-là.
C'est ça, tu revisites cette histoire-là, pas pour t'apitoyer sur les mauvais choix que tu as faits, mais plutôt pour voir, OK, comment réengager ma vie dans une mission qui a du sens. C'est même le sous-titre de ton livre, « L'art de donner mission à sa vie », parce que tu as écrit un livre, on en parlera plus tard, « La route du sommet », c'est de revoir ces embranchements-là pour voir, OK, c'était quoi les... ça aurait pu être quoi la mission? Et là, à partir de ça, reprendre la bonne branche aujourd'hui, c'est ça?
Exact. Il faut faire un inventaire. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai reçu d'abord? Qu'est-ce que j'ai dans mon patrimoine génétique? Qu'est-ce que j'ai comme santé? Mais qu'est-ce que j'ai reçu de mes parents? Qu'est-ce que j'ai acheté? Qu'est-ce qu'ils m'ont laissé? Qu'est-ce qui a collé de mes parents, de mes grands-parents? Alors, il y a une histoire familiale qui, généralement, là, révèle énormément de choses sur les capacités puis les désirs profonds. Après ça, qu'est-ce que j'ai ramassé? Qu'est-ce que j'ai mis dans mon sac? Quelles sont les valeurs auxquelles je crois? Quelles sont les croyances auxquelles j'ai adhéré? Quels sont les éléments constitutifs de mon profil comportemental? Il y a des outils qui existent pour distinguer est-ce que je suis quelqu'un qui est plutôt stressé par l'inconnu ou plutôt relax ou est-ce que je suis actif ou réactif? Il y a une segmentation qui peut être faite qui révèle des choses sur notre manière fondamentale de nous comporter.
Bref, il faut apprendre à se connaître, tout ça.
Exactement. Puis les circonstances qui nous motivent, mais dans quel environnement est-ce que je donne le meilleur de moi-même? Ça, c'est parce qu'on peut être dans un type d'activité qui nous convient, ça répond à notre constitution, mais on peut être dans un environnement qui n'est pas bon. On peut être avec toutes sortes de facteurs contraignants ou contraires qui font en sorte qu'on ne s'épanouit pas alors qu'on le devrait. Alors, il y a cet inventaire à faire qui permet après ça de déterminer voilà ce que j'ai comme capital, si on veut. Et puis à partir de là, voici ce que mes talents naturels, parce qu'il y a un examen des talents naturels aussi qu'on peut faire.
Ouais.
C'est répertorié ça, les talents qu'on a.
Jean-François Morin, auteur du livre « La route du sommet » aux éditions Ré Auguste. Je rappelle que tu es aussi responsable du cabinet Expand au Canada. C'est un réseau international de coachs et responsable des communications au diocèse de Sainte-Anne. Quel beau diocèse dans le bas du fleuve. Merci beaucoup pour ton témoignage.
Merci Antoine.
On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement.
Jessie Blouin, chef de pupitre web pour Le Verbe Média, bonjour.
Allô Antoine.
Alors, on parle de fatigue, d'épuisement aujourd'hui. C'est quand même étrange tout ça parce qu'on n'a jamais eu autant de temps de loisirs hein, dans l'Occident, le moderne, de temps de vacances. On va dans le sud, on passe des soirées à regarder des séries. Pourquoi on est si fatigué? C'est-tu parce qu'on n'est pas bon pour se reposer, Jessie?
Ben oui, mais en effet aussi, c'est que tous les types de divertissements ne nous détendent pas de la même façon. Fait que, dépendamment de ce qu'on a besoin de détendre, ben, il faut adapter aussi le mode de détente, si je peux dire.
C'est quoi la détente?
Ben, la détente, si on se fie au petit Robert, que tout le monde peut aller vérifier, c'est le relâchement d'une tension, là, si on le prend au sens figuré, d'une tension intellectuelle, morale, nerveuse et tout ça. Donc, on a besoin de le relâcher. Mais ce que je trouve plus intéressant, c'est quand on le prend vraiment au sens propre,
ah oui?
qui est le relâchement de la tension, mais au sens d'un ressort, d'une détente. Il donnait l'exemple de sportif, donc la capacité d'un athlète d'effectuer un mouvement rapide et puissant.
Comme un athlète qui lance un javelot, il prend son élan, il est tendu, et là, il y a la détente, c'est quand le javelot part.
Exactement. Donc, le relâchement est nécessaire au déploiement de la puissance.
C'est intéressant, ça. Ouais. On peut appliquer ça à nos vies.
Effectivement. Effectivement. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire.
Yeah! Tu as fait des recherches, évidemment. Tu as fouiné un peu, là, voir qui s'intéressait à ça, la détente.
Oui, j'ai pas juste sorti ça de mon chapeau. Il y a des gens...
Dieu sait qu'il est grand, ton chapeau.
Il est grand, mon chapeau. Mais il y a des gens très, très compétents qui sont penchés sur la question. Moi, je me suis basée sur Pascal Hyde, qui est un prêtre médecin, docteur en philo et théologie, et aussi auteur de plusieurs livres, qui s'est vraiment penché sur la question de la détente. Mm-hmm. Donc,
qu'est-ce qu'il dit?
Ce qu'il dit, essentiellement, il donne trois raisons de se détendre, parce que ça peut paraître d'emblée évident, mais c'est ça. Pourquoi se détendre? Donc, il y a la détente physique, il y a la détente mentale, mais il y a la détente spirituelle qu'on peut traduire par le besoin de sens.
Okay.
Donc, détente physique, ben là, tu as besoin de dormir. Faut que tu reposes ton corps.
La grosse base. Et pourtant, ça ne va pas de soi. J'entendais le témoignage de Jean-François un peu plus tôt. Il dit, ben, tu sais, il a fallu que j'apprenne à bien manger, dormir assez longtemps. C'est quand même important.
Oui, c'est la base de la base. Ensuite, il y a la détente mentale. Donc, la réponse à ça, c'est vraiment, c'est là qu'on revient à libérer l'attention. Donc, tout ce qui est plus dans l'ordre du divertissement qui va permettre de mettre le cerveau à off, on en parlait un petit peu tantôt. Mm-hmm. Donc, ça rentre là-dedans. Puis, le spirituel qui est comme plus au niveau du manque de sens. Donc, ça, c'est, Jean-François en parlait tantôt, nos aspirations profondes d'aller rechercher ça puis voir qu'est-ce qui les compte. Donc, s'il n'y a pas de sens dans notre vie, ça contribue aussi à l'épuisement, à l'attention.
Fait que, si je te suis bien, Jessie, il y a des moments où on a besoin d'une détente ou d'un repos, ou d'une détente, disons-le comme ça, physique. Il y a des moments, donc le soir, il faut se coucher, là, bref. D'autres moments dans notre vie, on a besoin d'une détente spirituelle, d'un moment où on se questionne sur le sens. Et des fois, on a juste besoin de se mettre le cerveau à off puis d'écouter un film un peu niaiseux qui ne nous obligera pas trop à réfléchir au sens de la vie. Et dans le fond, c'est des besoins différents auxquels il y a des réponses différentes à offrir. Et des fois, c'est tout confus, ça.
Oui, mais Pascal, justement, il relevait quatre fruits de la détente.
Okay.
Donc ça nous aide justement à identifier c'est quoi les meilleurs types de détente. Donc les fruits, c'est que ça supprime ce qu'il appelle le bruit cognitif résiduel que toute tâche occasionne. Donc c'est comme si on accumule, parce qu'un bruit cognitif, c'est comme une altération du jugement. Donc, on devient de moins en moins efficace parce que c'est comme si on est de plus en plus encombré. Mmh. Donc, une bonne détente va supprimer ça. C'est comme si ça permet d'effacer la ardoise, puis on recommence à zéro.
Mmh.
Donc, ça fait ça. Sinon, récupérer la fatigue attentionnelle permet de penser à des problèmes urgents et donne à réfléchir à des questions qui sont importantes, qui sont existentielles. Donc, c'est là que ça devient intéressant. Si on fait la distinction entre, mettons, écouter une série ou aller marcher dans la forêt. Écouter une série, ben comme ton attention, elle est complètement captée, ça crée quand même une détente parce que ça fait que tu arrêtes de penser à tes problèmes, tu oublies complètement ton quotidien. Donc, il y a une forme de détente là. Mais ça permet pas, ça dégage pas un espace mental pour répondre à des questions urgentes.
Ça donne pas du sens à ta
Exactement.
Vie d'écouter une série de The Office ou je sais pas
Exactement.
Quoi.
Exactement. Donc, à ce moment-là, on pourrait penser à, mettons, une marche dans la forêt qui te permet de t'activer. poser, qui te permet de prendre une distance aussi avec ton quotidien et tout ça, ce qui peut être générateur de stress. Puis aussi, ben, ça libère l'espace mental pour te remettre en question au besoin.
C'est drôle, Jessie, ce que tu racontes, ça me fait penser, j'ai une amie qui me partageait récemment, elle est allée dans un monastère pour un week-end. Puis là, elle avait besoin de se reposer. Puis là, on se dit, dans un monastère, c'est un bel endroit
c'est
pour ça.
Endroit.
Elle est revenue brûlée ben raide parce qu'elle a mal dormi, parce que le lit n'était pas confortable ou je ne sais pas trop, je nommerai pas la place, là, faites-vous-en pas. Mais je trouvais ça, en lien avec ce que tu dis, finalement, ce qu'elle avait besoin, c'était plus d'un hôtel que d'un monastère. Mais par contre, si elle avait eu des questionnements plus existentiels ou spirituels, le monastère est tout à fait à propos. Mm. Ça dépend, ça prend la bonne solution au bon problème.
Mm. Oui, donc des fois, de passer toute la soirée devant une série ou devant un jeu vidéo, tu as l'impression de te détendre, mais c'est pas ça qui va vraiment te recharger pleinement.
Uh-huh.
Donc, c'est vraiment d'identifier le réel besoin puis de le combler de la bonne façon.
Patrick, tu t'intéresses au divertissement aussi comme sociologue?
Oui, bien, c'est là où on voit la différence entre le repos ou la détente et le divertissement, qui est une diversion. Puis dans une perspective... traditionnellement marxiste ou critique à tout le moins. Oui, ouais, c'est ça. Il y a comme une continuité dans l'histoire du temps qu'on prend à l'extérieur du travail. Donc, historiquement, l'ouvrier, ce qu'il devait faire lorsqu'il ne travaillait pas, c'est de récupérer son énergie en s'alimentant pour pouvoir travailler le lendemain. Il n'y avait pas nécessairement les revenus, l'argent ou le temps de voyager, d'aller voir des spectacles. Il n'allait pas à l'opéra, le prolétaire. C'est bon. Il n'y avait pas de télévision. Donc, il se nourrissait pour pouvoir recommencer le lendemain et le salaire était réfléchi en fonction de reproduire cette force de travail-là. C'est-à-dire que je paye mon ouvrier pour qu'il puisse refaire sa journée le lendemain, pour pas qu'il crève de faim.
Ni plus ni moins, un peu comme un esclave, là, si on veut pousser la logique jusqu'au bout.
Exactement. Alors que maintenant qu'on a quand même des revenus plus importants, beaucoup plus de temps libre, effectivement.
On est quand même dans une société de consommation et de loisirs.
Oui, voilà. Mais là, le temps libre n'est pas... investi pour aller chercher les calories qu'on a besoin pour recommencer notre... Mais au contraire, pour plutôt se reposer l'esprit parce qu'on n'est plus tant dans une société de prolétariat ou d'ouvriers, on est dans une société de services tertiaires, de services immatériels, travail de bureau. Donc, ce n'est pas nécessairement physiquement épuisant. Bien, on l'a vu, ce n'est pas nécessairement soulever des grosses charges, s'épuiser au travail, là. Mais c'est plus mentalement. Alors, le loisir... où le divertissement aujourd'hui remplit la fonction de la nourriture d'autrefois. Donc, c'est une marchandise, là, le divertissement. Là. Qu'est-ce que les travailleurs vont pouvoir consommer pour pouvoir retourner au travail le lendemain? Et ça, c'est quelque chose qui est bien exposé par un philosophe et professeur de marketing qui s'appelle Olivier Babeau, que je suis en train de lire. Le hasard fait bien les choses.
Ben ouais.
Et qui, si je peux me permettre rapidement, les différentes sortes de loisirs ou de divertissements, historiquement, il y a le divertissement de l'aristocrate qui est tourné vers autrui. Le pigeon d'argile, l'opéra, il faut que les autres me voient faire, parce que c'est associé à un prestige, hein, le divertissement. Il y a le loisir bourgeois qui est plus tourné vers soi, donc la lecture, l'éducation, l'instruction, là. Alors que les aristocrates étaient plus oisifs. Là, bon. Et il y a le loisir historiquement plus ouvrier qui, lui, est de faire rien. Donc, ce n'est pas nécessairement l'apprentissage ou le prestige, mais c'est plus « je ne fais rien parce que je veux arrêter ». Mais c'est un divertissement qui est un peu pernicieux parce que justement, quand on ne fait rien, ben, on ne progresse pas, on ne réfléchit pas, on ne se remet pas en perspective, on veut juste oublier ses problèmes. Mais on les accumule. Il n'y a pas de mal à regarder un petit film idiot de temps en temps. Là, on s'entend. au volume, quand on regarde les codes d'écoute, quand on regarde les ventes, quand on regarde ce qui est consommé, ben, culturellement, massivement, on peut se rendre compte qu'effectivement, ben, on a peut-être un problème quant au temps libre. Qu'est-ce qu'on en fait? Et comment ça se fait qu'on est toujours fatigué alors que on travaille en moyenne, quoi, 30-35 heures semaine.
Ce qui n'a rien à voir avec le début du cycle.
Absolument, c'est des peanuts, là. Et pourtant, on est fatigué. Mais le loisir est une... et le divertissement
super
est une question intéressante là-dedans.
Merci, Patrick. Jessie, dernier mot là, sur ce que Pascal Hitt dit de la détente. Tu disais que c'est la différence entre ces fruits-là là, nous permet de discerner qu'est-ce que les différents types de détente.
Oui, oui, puis sur son site, qui va être ma suggestion culturelle de tantôt, il va encore plus loin aussi. Il parle de quatre éléments d'une bonne détente et tout ça. Donc, il y a matière à creuser encore. Là. C'est juste la surface là, qu'on a
effleuré. En tout cas, ça nous donne envie d'en savoir plus. Merci beaucoup, Jessie Blouin.
Ça fait plaisir.
Patrick Duchamp, bonjour.
Bonjour Antoine.
Enseignant en sociologie au collégial depuis une quinzaine d'années, collaborateur occasionnel au Verbe, hein, tu nous avais fourni des magnifiques portraits des penseurs Dorothy Day, Marshall McLuhan, précédemment là, dans nos pages. Et là, tu t'intéresses depuis longtemps à un sociologue majeur de notre siècle, qui est toujours vivant d'ailleurs, qui s'appelle Hartmut Rosa.
Oui.
Alors, c'est le penseur de l'accélération comme notion fondatrice de la modernité et de la résonance comme moyen d'y remédier. Est-ce que ça a du bon sens, ça?
Absolument, oui. C'est bien résumé. Donc, Hartmut Rosa, donc, sociologue allemand, héritier de ce qu'on appelle l'école de Francfort, donc, qui est une théorie critique au 20e siècle en philosophie, en sociologie, sur notamment le milieu de la culture, de la consommation, des médias. Et puis, traditionnellement, qui est une théorie assez critique, et lui en fait partie. Et l'accélération, ben on le devine. Hein, il y a quand même une lourdeur, il y a quand même un poids avec ce mot-là qui n'est pas très rassurant, à savoir qu'on vit dans un monde qui est en constante accélération.
D'être immobile, c'est mal vu. Si ta carrière stagne, si ta famille stagne, si ta vie personnelle stagne, si une industrie stagne, c'est nécessairement mauvais dans l'imaginaire collectif.
Ben, c'est vu comme un échec. Ça a toujours été vrai historiquement, mais aujourd'hui, en tout cas, dans l'histoire moderne, à tout le moins, avec la révolution industrielle, on le devine très bien. Mais à partir de la fin du 19e et début 20e siècle, ça, avec notamment l'univers médiatique, l'univers académique aussi, ça va s'accélérer. L'accélération, pour offrir une petite définition très simple, c'est l'obligation de production, de performance, de rendement. Donc, il y a une formule très intéressante chez Rosa qui va dire que la stabilité n'est possible que d'un point de vue dynamique. Donc, si je veux être stable, en fait, c'est juste une façon de parler parce qu'on ne peut pas être stable. L'économie ne peut pas être stable. Au travail, on ne peut pas être stable. Il faut faire toujours mieux, toujours plus rapidement. Et ce n'est pas seulement au travail. C'est ça qui est intéressant. C'est que c'est vraiment une théorie sociologique générale. Il va en parler notamment, la période de repos, on en parlait avec le repos et le divertissement, c'est un très bon exemple. Supposons qu'on est samedi, par exemple, je ne travaille pas, je m'assois dans mon fauteuil confortablement.
Fainéant.
Mais on va très souvent ressentir une petite culpabilité. Et durant les vacances, c'est la même chose. On se dit, il faudrait bien que je fasse quelque chose. Alors d'ailleurs, c'est la semaine de relâche qui commence actuellement pour plusieurs enfants et plusieurs parents. Et là, on veut remplir notre semaine parce qu'on se dit, si on ne prévoit rien, on va perdre nos congés, on va perdre notre temps.
Et souvent, il faut rentabiliser
nos journées de congés, nos journées de repos parce que sinon, on va avoir l'impression de perdre une occasion ou de se faire dépasser. Et c'est pas tout. Il faut même idéalement prendre des photos et les partager pour les réseaux sociaux pour s'assurer que notre rendement de congé soit bien vu, soit bien évalué. Et on a cette espèce de petite pression sociologique-là qui fait que on ne peut pas simplement ne rien faire.
On ne prend pas de photos de nous en train de se pogner le bang dans le divan le samedi matin pour mettre sur les réseaux sociaux.
Ça serait très mal vu moralement. Ouais. Donc, on a cette espèce de pression-là d'être performant même dans nos journées. Puis, on pourrait parler de la parentalité aussi. On ne peut pas simplement être père, être mère. Il faut être un excellent père, une super maman, c'est-à-dire savoir cuisiner, pouvoir régler tous les bobos, jouer avec nos enfants, faire de la couture. On ne peut pas simplement dire à nos enfants, va jouer dehors, puis on se revoit à la fin de la journée. Non, c'est faut aller jouer avec eux, faut s'assurer que l'éducation soit la bonne, lire des bons livres de psychologie pour être sûr d'être à la hauteur.
L'inscrire dans toutes sortes d'activités.
Absolument. Donc, c'est ce qui fait
C'est fatigant, ça, Patrick?
C'est vraiment épuisant. D'ailleurs, il y a des concepts clés de Hartmut Rosa, c'est vraiment le burn-out. Mmh. C'est l'épuisement professionnel. On le retrouve partout dans son livre Accélération, là, que je vois, je crois, sur ta table.
Ouais.
Et c'est vraiment le mal de notre époque. Ce qui est particulier, c'est que c'est un mal qui touche des gens qui ont tout. qui ont des carrières, qui ont de l'argent, qui ont du prestige.
Ben, traditionnellement, les sociologues de cette école de pensée-là, plutôt marxiste, là, disons-le, oui. disons les gros mots, là, ils s'intéressaient justement aux luttes sociales, aux luttes de classe. Faudrait que les classes ouvrières aient accès à plus de moyens, qu'il y ait une plus grande égalité, qu'on puisse... mais là, on est arrivé à un point de l'histoire, en tout cas en Occident, où il y a une classe moyenne assez bien nantie, où on pourrait dire, nous sommes arrivés, pas à la fin de l'histoire, mais quand même à un point de confort assez généralisé, et on est malheureux quand même, on est épuisé quand même. Comment ils réfléchissent à ça?
Ben, en fait, on le voit même dans l'actualité. Là, on est en ce moment à la fin de certains conflits syndicaux, notamment dans le monde de l'enseignement ou de la santé,
ouais.
où souvent la première question qui achoppe,
ouais.
c'est le salaire. Et là, on se dit, ben, on va payer nos professeurs pour les garder au travail. Et là, on a même évoqué des chiffres. Là, donc, après quelques années de travail à temps plein, un professeur de primaire va atteindre un salaire de 100 000 $ par année. Et là, ça frappe l'imaginaire collectif parce qu'on rentre dans les 6 chiffres. Mais moi, j'ai pas de boule de cristal, mais je vous le dis, Hartmut Rosa nous le dit, c'est que cette course aux ressources-là ne nous aide pas, elle nous nuit. Ce qui fait en sorte que...
Il faudrait baisser le salaire des profs, c'est ça que tu es en train de dire, monsieur le professeur?
Mais et c'est ça qui est intéressant, c'est que on a cru que Hartmut Rosa était le sociologue du ralentissement, de la décélération,
la décroissance,
et ce qui n'est pas du tout le cas.
Ah non?
Il dit que la solution à l'accélération, ce n'est pas le ralentissement. Parce qu'il y a quand même des choses dans le progrès qui sont bénéfiques d'un point de vue technologique, d'un point de vue médical, d'un point de vue des communications. Qui voudrait se passer d'Internet aujourd'hui? Un des problèmes avec le burn-out ou le travail, c'est le fait qu'on peut être rejoint en tout temps avec nos courriels, nos téléphones, ce qui fait en sorte que le télétravail élargit nos périodes de travail potentielles, d'ouvrage potentiel. Et il y en a qui pourraient dire, ben la solution dans ce cas-là, ce serait tout simplement de ralentir et de se passer d'Internet. Jetons nos téléphones cellulaires et nos ordinateurs, on va régler... Ben, pas nécessairement, non. C'est précieux d'avoir Internet pour communiquer, aller chercher des informations, c'est quand même riche. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut nier les ressources qu'on a acquises. Mais peut-être que le problème, le nœud du problème, ce ne sont pas des ressources en tant que telles ou de la richesse. Et c'est là, après quelques années de travail, de réflexion sur l'accélération, qu'il va en venir à une autre dimension, à un autre concept qui est très important en sociologie aujourd'hui, c'est la résonance. Parce que d'entrée de jeu dans la résonance, que j'ai ici d'ailleurs, qui est un ouvrage bon, que je ne conseille pas nécessairement
un petit à livre tout
le monde, tout léger. Oui, ça m'a pris 2 ans de lire. Donc, je l'ai lu lentement pour vraiment le réfléchir, le digérer, mais c'est fascinant. Bon, résonance, une sociologie de la relation au monde, c'est le sous-titre. Dès le début, il dit « on court après les ressources, on court après le bonheur, mais c'est peut-être une chimère ». C'est pas qu'il faut être malheureux. C'est pas ça qu'il dit. Il ne faut pas nécessairement souffrir. Il ne faut pas nécessairement ralentir. Il ne faut pas nécessairement aller vivre dans le bois, dans une cabane en bois rond, couper de l'électricité, de l'eau courante. C'est pas ça, la solution. Mais la course aux ressources doit plutôt laisser place à une question sur le processus. Donc, c'est pas tant d'éliminer les ressources ou les richesses, mais de réfléchir au processus. Et la résonance, pour donner une petite définition très simple, c'est la relation au monde, lequel nous répond. Donc, à être en relation avec les autres et non pas nécessairement en contrôle.
OK.
Donc, la métaphore qu'il utilise, c'est le diapason. Le diapason, en fait, si on a deux diapasons, si on en cogne un, l'autre va se mettre à résonner, mais à sa façon. Pas nécessairement pareil comme l'autre diapason. C'est la métaphore qu'il va utiliser. Alors, la résonance, par exemple, ça peut être tout simplement de dire, bon, je suis un professeur,
ouais.
j'ai des étudiants devant moi, mais si je parle uniquement en termes de production, de performance, de croissance, on va penser aux examens, au travail, aux notes, à la cotère, et là, je vais produire une cohorte de jeunes anxieux, stressés, qui ne pensent qu'aux résultats, et malheureusement, c'est souvent ce qui arrive. Parce qu'on a beaucoup de cours, beaucoup d'examens, on a des ultimatums, on fait les examens et souvent, ce qui arrive après, pouf, on oublie la matière.
Tu deviens, toi, une espèce de technicien de l'enseignement, pas dans le sens que c'est mauvais d'être technicien, mais
absolument.
Finalement, ça devient c'est ça, seulement on l'utilisait, cette expression-là, quand on était à l'université, du bourrage de crâne. Là.
Exactement,
on,
oui.
On remplit des cases, puis oui. on passe au prochain examen, puis on oublie tout après quelques semaines. C'est, oui. c'est un peu ça.
Ben absolument. Ben, tu posais d'ailleurs la question au début, à savoir, il me semble que tout le monde est fatigué. Ben, ouais. Moi, en tant que coordonnateur de mon département, je pose la question, mais je suis surtout très attentif. Tout le monde est fatigué. Les professeurs sont fatigués, les étudiants sont fatigués. Et là, moi, je me dis, ben, on est en plein dans l'accélération. Là.
Ouais.
Je me dis, si tout le monde en parlait ouvertement et si on réfléchissait à l'institution, à nos normes, on pourrait se dire, bon, ben, des professeurs qui sont moins fatigués parce qu'ils se concentrent sur l'essentiel, sur leur matière, sur leur discipline, sur leurs connaissances.
Sur la relation avec les élèves.
Exactement, et qui veulent transmettre une passion qui peut être contagieuse, parce qu'on a tous rencontré des professeurs qui étaient fascinants, qui ont changé nos vies. Mm-hmm. Mais ce n'étaient pas nécessairement les professeurs les plus exigeants ou les plus tyranniques.
Ou les plus organisés, non.
Oui, c'est ça. C'est ça. Ça pouvait être des... Mais pas non plus, je disais que le ralentissement ou la décroissance, ce n'est pas nécessairement la solution, mm-hmm. pas non plus des professeurs fainéants ou qui nous disent que ce n'est pas nécessaire de travailler. Mais des professeurs qui vont créer une relation résonante où on va se concentrer sur l'essentiel, sur la raison pour laquelle on est là. Et en bout de ligne, ben, si on a un apprentissage, une émancipation, un bouleversement, une remise en question, ben, c'est là peut-être que plus tard, je vais me souvenir du professeur que j'ai eu dans le cours et la note va être secondaire. On ne se souviendra plus nécessairement de la note, mais on va se souvenir des apprentissages. C'est ça la résonance. C'est pour ça qu'on va à l'école, dans le fond.
Il y a un concept très intéressant dans. On peut lire ça là, dans un texte que tu as publié chez nous, d'ailleurs, sur leverbe.com, là, qui s'appelle Hartmut Rosa, lâcher prise en tenant bon.
Oui.
C'est un texte où tu résumes la pensée de Rosa. On voyait bien dans ce texte-là que dans le concept de résonance, il y a quatre dimensions essentielles. Oui. Puis, bon, sans toutes les énumérer, là, je vois le temps filer. Il y en a une qui est vraiment très intéressante et qui est très proche de ce qu'on vit aussi, ceux qui ont la foi, de ce que vivent ceux qui ont la foi, c'est le concept d'indisponibilité. J'aimerais t'entendre là-dessus, Patrick.
Ah,
c'est
oui.
quoi ça, l'indisponibilité? C'est quand on m'appelle, je réponds pas?
C'est pas nécessairement ça. L'indisponibilité, c'est un principe. Ça veut dire que en théorie, sur papier, on est tous disponibles. On est disponible pour nos collègues, nos amis, notre épouse, nos enfants. Mais ça veut pas dire qu'on doit toujours l'être. Il y a des moments où on doit justement lâcher prise, il y a des circonstances. L'indisponibilité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la résonance ne se crée pas sur demande. Par exemple, on ne peut pas dire que parce qu'on a lu des manuels ou des instructions qu'on peut reproduire toujours un travail parfait ou qu'on peut réussir notre vie de couple parce qu'on a lu dans un livre comment réussir son couple. C'est pas toujours comme ça. Des fois, ça va fonctionner. Mais l'indisponibilité, ça veut dire qu'il faut arrêter de toujours vouloir contrôler. La résonance, par définition, elle est indisponible. Elle dépend du contexte, elle dépend des institutions, elle dépend de la culture.
C'est pas en appuyant sur un bouton qu'on va l'obtenir.
Non, c'est ça. J'utilise la métaphore du Amazon. Je clique sur quelque chose, je suis membre d'Amazon Prime, puis le lendemain matin, ça arrive à ma porte. On est dans une culture où on veut que tout arrive sur commande en pesant sur un bouton. Mais la résonance, c'est pas comme ça. C'est de réfléchir au processus et ça fait en sorte que des fois, les choses ne fonctionneront pas. On peut donner un cours qui va être tout croche. On peut faire une erreur au travail. On peut avoir un souper romantique qui va tourner à la catastrophe parce que le rôti brûle dans le four.
Ou mais, à l'inverse, tu peux donner un cours parfait qui, sur papier, était très bien préparé, impeccable, la matière est passionnante, puis ça lève pas. Non. Parce que tu as des êtres humains devant toi, pas des machines. Et alors, c'est pas... automatique, on ne peut pas tout contrôler, tous les paramètres.
Et paradoxalement, la résonance peut se produire dans des situations où il y a des accidents, des erreurs, des gaffes, mais ça peut être très formateur, ça peut souder des liens, et ce qui fait en sorte que des fois, des hasards suivent son instinct, essayer des choses, peut-être que ça ne marchera pas au travail, mais on essaie quelque chose, on sort un peu de la procédure, juste pour voir qu'est-ce que ça donne, ben c'est ça aussi la résonance. C'est de sortir un peu du mode d'emploi, du guide, de la norme, de la procédure, pour penser à des relations. Parce qu'on a beau vouloir suivre les règlements, les normes, le patron, mais ça peut nous mener des fois justement au burn-out.
Ouais.
Et pourtant, on va dire, ben, j'ai tout fait ce qu'il fallait. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Et puis c'est là aussi qu'il faut lâcher prise.
Jean-François?
Là, on a un sociologue qui nous parle d'une notion qui est celle de la résonance, mais moi, j'entends la notion du gros bon sens ici. Là. Parce que la résonance, en fait, c'est comme un moment de validation de convenance.
Oui.
Est-ce que ce qui m'arrive, ce que je fais, à un moment donné, j'arrête, je fais une pause, je deviens momentanément indisponible, puis je vais donner ce coup de diapason pour que ça part de moi, ça va rebondir, puis ça me revient, puis ça me donne un message par rapport à là où je me situe.
Absolument, oui. Un professeur qui, par exemple, donne des devoirs, des travaux, des lectures à ses étudiants, on est ici, il voit que les étudiants sont plus capables, ils ne suivent pas, sont pas capables de répondre aux exigences. Lui-même, en réponse, va dire, OK, d'accord, c'est peut-être que mes normes ne sont pas adaptées. Peut-être que je dois écouter davantage, d'être en relation plutôt qu'être en contrôle et dire que mes élèves sont des cancres, que, puis que les jeunes ne veulent plus travailler. Mais, puis le patron, c'est la même chose. Le patron qui regarde avec un gros bon sens ses employés va se dire, OK, notre relation n'est peut-être pas saine. Il faut réfléchir à notre relation pour qu'en bout de ligne, tout le monde s'émancipe au-delà des questions de rendement, de croissance et de compétition, là.
Patrick Ducharme, c'est déjà tout le temps qu'on avait. Je rappelle que tu es enseignant en sociologie et collaborateur occasionnel au Verbe Média. On peut lire ta présentation de la pensée très riche d'Hartmut Rosa, ton texte intitulé « Lâcher prise en tenant bon », c'est sur leverbe.com. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci Antoine.
Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm@verbe.com.
C'est déjà tout pour cette semaine, mais avant de se quitter, quelques rapides suggestions culturelles, Jessie.
Oui, donc le site de Pascalide, qui est un blog ouvert à tous, pascalide.fr, je vais le mettre en commentaire du vidéo.
Merci, Jessie. Jean-François, tu as écrit un livre, on peut en profiter pour le suggérer, oui.
Oui, bien alors que les gens prennent un temps d'arrêt, revoient leur chemin pour décider de la trajectoire future avec un ouvrage comme celui-là, s'il est conçu pour ça.
La route du sommet, on peut trouver ça chez Ré Auguste Édition. Merci Jean-François. Et Patrick Ducharme, une suggestion parmi la panoplie de livres écrits par Hartmut Rosa.
Si on veut commencer quelque part, c'est « Rendre le monde indisponible » d'Hartmut Rosa. C'est une petite plaquette, c'est très accessible et c'est une façon de montrer comment, en voulant contrôler le monde, mais ultimement, il faut peut-être justement essayer de voir que le monde est indisponible et non pas accessible comme une ressource qu'on peut exploiter à loisir.
Et je me permets de rajouter qu'il a écrit récemment, en 2023, « Pourquoi la démocratie a besoin de la religion ». C'est une conférence qu'il a donnée dans un diocèse catholique allemand récemment. C'est passionnant le rapport qu'il fait entre la... En fait, il admire les croyants là, pour cette capacité-là qu'ils ont à se rendre indisponible en quelque sorte. Ouais. Alors, je vous invite à lire ça. C'est vraiment de toute beauté. Merci à vous d'avoir été avec nous, Jean-François, Patrick, Jessie. Je remercie aussi Marie La Liberté et Marianne à la technique. Et je vous invite, vous à la maison, à partager cette émission allègrement, sans retenue, sur vos réseaux sociaux. Allez-y fort, retenez-vous pas. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode d'On n'est pas du monde.